France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Louise Cognard, Joséphine Reynards, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît. À la réalisation, Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. Alors que les catholiques se préparent à célébrer Pâques à travers le monde, notre série s'intéresse à cette communauté traversée par les doutes et qui s'interroge sur sa place dans le monde. Après avoir évoqué les divisions de l'Église face aux réformes internes, les difficultés du pape François à faire entendre ses messages de paix, puis la montée d'une droite chrétienne radicale aux États-Unis, direction ce matin la République démocratique du Congo, où le clergé, très engagé politiquement, est désormais prié de se taire.
Permettez-moi d'être parfaitement clair. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais.
Ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce dialogue parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire à notre problème. Vous savez, la violence engendre la violence, comme on dit. Et pour nous, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent retrouver le consensus national, la cohésion nationale. Et ça, ça demande que chacun puisse se dépasser.
Dites-moi, Monseigneur Chollet, comment expliquer que votre pacte-là rencontre comme par hasard l'assentiment de tous les opposants? Katumbi est d'accord, Matata est d'accord, Nang est d'accord.
Vous les citez, mais vous ne citez pas la société civile. Demandez s'il y en a un seul qui, après avoir lu les guides, ne dit pas que c'est une initiative louable.
Cette initiative louable, pour reprendre ces termes que Mgr Donatien Ncholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, est allé défendre sur les plateaux de télévision, est une feuille de route pour un retour à la paix dans la région du Kivu. Voilà des mois que l'Église catholique, associée aux protestants, se mobilise activement pour tenter de mettre fin au combat alors que la rébellion du M23 s'est emparée des villes de Goma et de Bukavu. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs, s'indignent les hommes d'église, qui sont désormais en mission pour établir un dialogue entre toutes les parties. Une initiative reçue froidement par le président Félix Tshisekedi, qui considère le M23 comme un groupe terroriste et qui s'agace de ce clergé catholique qui, depuis des années, refuse de se cantonner à ses fonctions spirituelles. De fait, l'église est un acteur clé de la vie politique congolaise où elle s'est investie d'un rôle de médiateur des crises électorales. Malgré sa popularité et le poids de ses 52 millions de fidèles, que peut vraiment l'Église dans la complexe crise politique et sécuritaire du Kivu? Quel est l'état de ses rapports avec le président Félix Tshisekedi? Les évêques sont-ils toujours aussi influents que lorsqu'ils avaient obtenu une sortie de la crise électorale de 2016? On discute de toutes ces questions avec nos deux invités. Trésor Kibangula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique, cofondateur de l'Institut congolais de recherche Ebouteli. Vous êtes avec nous à distance depuis Kinshasa. Et notre second invité, c'est Onesphore Sematumba. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes également à distance depuis Kampala, en Ouganda. Vous êtes analyste senior pour la République démocratique du Congo et le Burundi auprès de l'ICG, l'International Crisis Group. Merci à tous les deux d'être en ligne. Alors je le disais, ce pacte social, comme il s'appelle, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs, a été dévoilé par les églises protestantes et catholiques en janvier. Trésor Kibangula, qu'est-ce que ce pacte apporte de différent? Qu'est-ce qu'il propose de nouveau pour régler la crise au Kivu, novateur par rapport à d'autres tentatives de règlement diplomatique qui ont existé?
Je pense qu'il faut souligner tout de suite que ces pactes ou cette initiative des églises catholiques et protestantes intervient quand même au moment où les mécanismes régionaux ont échoué ou ont montré leurs limites. On a vu, il y avait un processus à Nairobi, piloté par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et ça devait permettre à ce que tous les groupes armés soient démantelés et déposent les armes. Ça n'a pas fonctionné. Au contraire, les groupes armés locaux sont devenus des acteurs encore plus actifs parce qu'ils sont aujourd'hui des supplétifs de l'armée congolaise dans cette guerre contre les M23 et les troupes rwandaises. Il y avait un autre processus régional depuis Luanda, mené cette fois-ci par l'Union africaine. Et là aussi, il fallait essayer de faire rencontrer ou trouver un accord entre le Rwanda et la RDC. On a vu que ce processus aussi a été grippé. Et donc, c'est dans ces contextes-là que les évêques ont essayé de reprendre les relais et proposer quelque chose d'autre qui devait à la fois régler ces problèmes des crises politiques dans l'est du pays, mais aussi les pactes sociaux prévoient de discuter, de mettre sur la table d'autres questions, notamment des questions qui sont liées à la gouvernance du pays, qui sont liées à l'intégration régionale. Donc, essayer de discuter vraiment de beaucoup d'autres choses que la crise politique pour essayer de mettre en place des nouveaux garde-fous pour une gouvernance inclusive et responsable en République démocratique du Congo.
Et sur la méthode, ce à quoi l'Église catholique et protestante ont montré leur attachement, c'est aussi le fait de parler avec tout le monde, de rencontrer tous les acteurs. Ils sont allés voir le président rwandais Paul Kagame, ils sont allés voir des membres du M23 à Goma, de sa branche politique aussi, l'Alliance Fleuve Congo. Comment cela a-t-il été perçu, Onesphore et Matumba, alors qu'on l'a entendu en introduction, le président Félix Tshisekedi avait fait du dialogue avec le M23 une ligne rouge qu'il ne voulait pas franchir.
Oui, eh bien, j'allais justement ajouter à ce que Trésor a dit, ce que la principale innovation de ce pacte ou de cette initiative, c'est la hardiesse de la démarche des évêques. C'est ce souci d'inclure tout le monde au risque de casser tous les codes politiques. Le président, il a martelé que rencontrer le M23, négocier avec le M23, c'était une ligne rouge infranchissable, mais les évêques l'ont franchi allègrement. Bon, évidemment, comme on devait s'y attendre, cela a mis les proches du pouvoir dans une fureur incroyable, et donc les évêques et leurs alliés protestants ont été soupçonnés, même traités de complices des assaillants de la République, de traîtres. Le mot trahison est sorti rapidement, au point que après cette visite de Goma, mi-février, mi-février, Goma, puis Kigali, a amené comme réaction au sein du parti présidentiel, notamment de ses militants jeunes, des menaces de représailles contre les lieux de culte catholique dans la ville de Kinshasa. Bon, cela a été évité de justesse, mais voilà, l'initiative des églises, par sa hardiesse, par son souci contre le discours, contre la posture du gouvernement, d'inclure tout le monde, à fâcher et continue à fâcher dans les sphères du pouvoir.
Et on a vu dans les médias congolais comment, par exemple, les photos qui ont été prises des hauts responsables religieux aux côtés des dirigeants M23, apparemment tout sourire, ont cristallisé cette tension. Je vous propose d'écouter comment Eric Nsanga, le secrétaire général de l'Église du Christ du Congo, donc ce sont les protestants, expliquait et se justifiait de sa démarche. C'était au micro de RFI.
Dans notre approche, nous visons la paix durable. Il serait, en tout cas aberrant, sinon illusoire, de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés. Donc ici, nous parlons sans embâche, on a déjà vu quelques acteurs. Oui, M23, c'est vrai, ça devient comme une psychose. Il y a beaucoup de choses à se dire, mais gardez à l'esprit, que voulons-nous ? Nous ne pouvons pas en même temps dire nous voulons la paix mais en même temps, nous soyons sceptiques à tout mécanisme qui peut conduire à la paix. Notre posture est celle de transformer les conflits en opportunités de vie.
Voilà, Eric Ensanga au micro de RFI. Onés Force Matumba, vous disiez que les responsables religieux étaient en train de casser les codes dans cette initiative de paix au Kivu. Trois mois plus tard, qu'est-ce qu'il en ressort? Où en sommes-nous? Est-ce que l'initiative a permis des avancées?
Oui, je pense que tout le monde s'est rendu compte que ce qui paraissait être une ligne rouge au mois de février a été normalisé. Maintenant, à l'heure où nous parlons, il y a des négociations directes entre Kinshasa et le M23 à Doha, au Qatar. Et on a vu que le 18 mars, le président Tshisekedi a rencontré dans la même ville du Qatar son homologue rwandais Paul Kagame, au point que je suis moi tenté de dire que les évêques et les pasteurs protestants ont eu raison trop vite, plus tôt que les autres, et que donc ce que vient de dire le révérend Senga, c'est que finalement tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre issue que de se parler, et maintenant je pense que la fameuse ligne rouge a été allègrement effacée, quoique le ressentiment reste, je dirais, douloureux auprès des tenants de la ligne dure, qui espèrent toujours qu'il y a lieu d'avoir une éclatante victoire contre les M23 et contre le Rwanda. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce qui était préconisé, c'est-à-dire un contact direct, des négociations directes, est en train de se mettre progressivement en place. Mais ce qui se passe à Doha, évidemment, n'est pas la mise en place du pacte social des églises qui est tout à fait autre chose, mais la méthodologie au moins est acquise qu'il faut un contact. Et voilà, le contact est en train de se faire.
En effet, des contacts ont été établis. Il y a eu cette rencontre, vous le disiez, entre les présidents rwandais et congolais en mars. On parle d'une rencontre également avec les représentants du M23 qui, je crois, devait se tenir en avril et qui a été reportée au dernier moment. Est-ce que cette ligne rouge qui a été normalisée, comme vous le dites, est vraiment complètement à mettre au crédit de l'Église catholique? Est-ce que c'est elle qui a réussi à convaincre Félix Tshisekedi d'infléchir sa posture, ou est-ce que le président en est venu à cette position de lui-même, peut-être par pragmatisme, peut-être par un calcul rationnel du fait qu'il n'y aurait pas de solution militaire sur le terrain. Voilà, c'est simplement pour essayer de mesurer, Trésor Kibangula, à quel point cette avancée est à mettre au crédit de l'Église.
Je pense que l'Église a eu l'avantage d'anticiper ce qui allait se passer, parce que au mois de décembre, janvier, lorsque le président tient encore cette ligne rouge, Goma est encore sous contrôle de l'armée congolaise, et la ville de Goma est surprotégée par les mercenaires, par le troupe venu de la SADC, par le Wazalendo, c'est-à-dire ces groupes armés locaux qu'on a réarmés, et aussi par les troupes congolaises. Il y avait même des casques bleus aussi pour protéger la ville de Goma. Mais malgré tous ces dispositifs impressionnants, les troupes rwandaises et les M23 ont pu prendre la ville de Goma, et ils ont continué leur progression même vers la ville de Bukavu, ce qui est aussi une capitale de la deuxième province du Kivu, donc le sud Kivu. Je pense que aux côtés de ces travaux de l'Église catholique pour dire qu'il faut parler à tout le monde, il y a eu aussi l'incidence des rapports des forces qui sont devenus très défavorables au président Tshisekedi et à l'armée congolaise sur le terrain militaire, qui ont fait que finalement les présidents puissent repousser un peu plus loin sa ligne rouge en acceptant de discuter avec le M23. Et aujourd'hui, il y a encore des contacts qui continuent entre le M23 et Kinshasa à Doha. Kinshasa a envoyé quelques responsables de l'appareil sécuritaire. On parle des responsables de la Direction générale des migrations, des responsables de l'Agence nationale des renseignements qui sont sur place à Doha, qui discutent peut-être encore par intermédiaire des autorités qataries avec la délégation du M23 qui est également sur place. Donc, les lignes ont bougé, mais je ne pense pas que ce soit seulement par l'activisme des évêques, mais les évêques ont vu juste que la solution ne passerait pas par les armes et qu'il faudrait discuter avec tout le monde.
Et du côté de l'opinion publique, comment les choses évoluent-elles depuis janvier dernier? Vous le disiez, les églises catholiques et protestantes ont été par certains traitées de traîtres à la nation pour avoir osé parler avec le M23. Comment est-ce que cela évolue? Est-ce que l'Église espère que son initiative rencontre aussi une adhésion populaire auprès d'une partie de l'opinion publique? Onesse Forcé Matumba?
Oui, je pense que, comme le disait Trésor, les lignes ont bougé, mais pas seulement les lignes sur les fronts militaires, ni la fameuse ligne rouge du président Tshisekedi, mais il y a aussi des lignes qui bougent au sein de l'opinion. Et ces lignes bougent par réalisme, par fatigue aussi. Les gens ont cru, une certaine opinion a écouté, entendu et cru au discours de revanche militaire, de contre-offensive foudroyante, etc. Mais maintenant, 3 ans après, les gens deviennent réalistes et l'opinion est de plus en plus acquise à l'idée que la solution ne sera pas militaire et plus la solution diplomatique négociée viendra vite, mieux ça sera. Donc il y a une certaine disposition maintenant due au réalisme, à la fatigue, à toute cette misère occasionnée par cette guerre qui, il faut le rappeler, n'est pas la première du genre. Et donc les gens sont fatigués et donc ils espèrent que la solution viendra, des négociations rapides qui ne traînent pas à longueur, et l'initiative des évêques qui est la plus inclusive possible, hein. Si on considère toutes les autres médiations, les évêques et les pasteurs, il ne faut pas les oublier, ce sont eux qui ont véritablement inscrit l'inclusivité dans l'ADN de leur démarche. Ils ont commencé au niveau national. Ils ont embarqué, et avec énormément de succès, tous les grands leaders de l'opposition. Tous ont mordu à l'hameçon, comme on dit. Ils attendent que les forums du pacte social se tiennent, et alors que, par comparaison, par exemple, la tentative de formation d'un gouvernement d'union nationale du président Tshisekedi n'a pas eu le même succès. Donc les opposants n'ont pas répondu, mais à l'initiative de l'Église ou des Églises, tous les opposants sont d'accord. Ensuite, ils sont allés, les évêques et les pasteurs, au niveau régional. Ils ont été dans pratiquement toutes les capitales africaines qui comptent, y compris Kigali, Kampala, Nairobi, etc. Ensuite, ils sont allés plus loin dans les capitales mondiales qui comptent. Ils sont allés à Washington, on les a vus à Paris, etc. Donc cela fait que patiemment, les évêques et les pasteurs ont tissé une toile et on espère que tous ces efforts vont aboutir à une grande messe, mais qui va aboutir des résultats tangibles pour une paix durable dans la région et à l'est de la République démocratique du Congo.
Et parmi les premiers résultats, vous le disiez, il y a ce ralliement du gouvernement congolais à une démarche de dialogue. Et pourtant, les relations, il faut l'expliquer, les relations entre l'Église catholique et le gouvernement de Félix Tshisekedi n'ont pas toujours été au beau fixe. Il faut rappeler qu'en 2018, la CENCO, donc la conférence des évêques du Congo, avait contesté les résultats de l'élection à laquelle Tshisekedi avait été désigné vainqueur. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo.
Nous, comme Église, nous ne nous accrochons pas au combat sur la vérité des urnes. À son temps, nous avons parlé de ces dénis de vérité que nous avons vécu, qu'on élise quelqu'un et on proclame quelqu'un d'autre. Nous en avons parlé. Mais l'Église ne s'accroche pas à ça. L'Église se tourne vers l'avenir et l'attitude, le combat de l'Église aujourd'hui, c'est comment être à côté de son peuple pour faire avancer la situation du pays.
Monseigneur Fridolin Ambongo qui s'exprimait en 2019, l'archevêque de Kinshasa. Ce désaccord, Trésor Kibangula, entre l'Église et le gouvernement sur les résultats de 2018, comment pèse-t-il encore aujourd'hui sur les relations entre le chef de l'État et l'Église catholique ?
Je pense que ces désaccords ont laissé beaucoup de traces qu'on voit encore aujourd'hui dans cette relation entre le pouvoir de Tshisekedi et l'Église catholique. Il y a beaucoup de hauts, mais aussi et surtout beaucoup de bas dans ces discussions, dans cette relation entre les deux parties. Et en fait, en 2018, l'Église avait, comme en 2023, déployé énormément d'observateurs électoraux et l'Église avait même un dispositif de comptage parallèle des voix. Et lorsque l'Église a constaté qu'au lieu de publier les résultats sortis des urnes, les Congolais ont eu droit à un accord politique entre le président sortant et le président entrant, l'Église s'est levée pour dire que c'était pas la vérité des urnes. Donc le président Tshisekedi a mal vécu ces moments et cela a conditionné un peu la suite des rapports aujourd'hui. Je pense aussi que cet incident ou ces précédents conditionnent la réticence aujourd'hui du président Tshisekedi par rapport à l'initiative des évêques, parce que les évêques savent désormais que lorsqu'ils apportent les bons offices pour aider les politiques à trouver, à sortir d'une crise politique, à la fin, les politiques font un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils se contentent de partager les gâteaux et les cycles de mal-gouvernance se poursuivent, les cycles des élections mal organisées et non crédibles se poursuivent. Dans la feuille de route du pacte social que proposent désormais les évêques, il ne s'agit plus seulement de résoudre cette crise politique immédiate ou cette crise sécuritaire immédiate. Il s'agit aussi de questionner tous les enjeux de gouvernance du pays et établir définitivement des garde-fous pour que demain, lorsqu'on ira aux élections, que chaque voix des Congolais soit réellement comptabilisée et que les résultats qui sortiront des urnes soient respectés. Et c'est ce qui, je pense, aussi fait peur au pouvoir, parce que cette grande messe, comme disait Onesfor tout à l'heure, est-ce que le pouvoir aura suffisamment de marges de manœuvre pour contrôler ce qui va être dit, ou elle va se retrouver sur une table de négociation où elle n'aura pas suffisamment de poids pour peser contre tous ces leaders d'opposition qui pourraient être là. C'est pourquoi aujourd'hui, il se sent plus à l'aise, ce qui est surprenant par rapport à la ligne rouge établie en janvier, jusqu'en janvier, c'est que aujourd'hui, le pouvoir se sent plus à l'aise à entamer des discussions directes avec les M23 que d'accepter un cadre de discussion où il y aura les opposants non armés qui pourraient peut-être les pousser vers ces retranchements. Donc c'est quand même quelque chose de très étrange et de déroutant.
Et Trésor Kibangula, quand vous disiez l'Église refuse de cautionner des arrangements politiques électoraux, mais quand Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, dans le son qu'on vient d'entendre, dit « maintenant il faut aller de l'avant », est-ce qu'il faut y voir un renoncement à son combat pour la vérité des urnes, qui était le combat en 2018 voilà, comment interpréter cette phrase qui dit « allons de l'avant maintenant, il y a d'autres combats à mener », il fait une concession là, à ce moment-là ?
Oui, à ce moment-là, il s'agit d'une concession, mais en établissant aussi des lignes pour l'avenir, pour dire « ok, on va de l'avant, mais désormais l'Église ne va plus cautionner que le suffrage des Congolais soit adriblé par des arrangements politiques ». C'est pourquoi aujourd'hui, comme je disais, cette nouvelle démarche, cette initiative SENCO et CC des Églises catholiques et protestantes font peur au pouvoir, parce qu'ils savent que ça ne va pas se limiter à la résolution de la crise politique. L'initiative compte aller plus loin et questionner même la question des problèmes de légitimité des animateurs qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Donc, le pouvoir est en train d'éviter d'aller dans une sorte de conférence nationale souveraine où même sa légitimité va être mise en question. Parce que, en fait, lorsque le cardinal dit allons de l'avant, parce qu'il s'est retrouvé un peu devant les faits accomplis. Toutes les chancelleries internationales, les pays partenaires ont reconnu les résultats de 2018. L'Union africaine qui a essayé de bouder un peu ces résultats avait fini par reconnaître. Les organisations sous-régionales aussi ont suivi. Donc l'Église s'est retrouvée un peu seule dans cette réticence. Mmh. Alors il a dit « ok ». Allons de l'avant, mais désormais, si les politiques font encore appel à moi pour venir apporter une médiation, ou si j'apporte une initiative de médiation, ça ne se limitera plus à la résolution de simples crises, mais il faudra poser les jalons pour une gouvernance inclusive et responsable.
Onesphore Sematumba, le président Tshisekedi est un chrétien pentecôtiste. En quoi est-ce que cela pèse ou joue dans le contexte peut-être aussi d'une compétition entre religions en République démocratique du Congo? Juste pour rappeler quelques chiffres, l'Église catholique représenterait environ entre 40 et 49% des croyants en RDC. Voilà. Est-ce que cette dimension personnelle, d'une croyance personnelle, joue aussi politiquement ?
Ah oui, bien sûr. La religion ou la dimension religieuse joue un facteur très, très important au Congo, y compris aux plus hautes sphères du pays. Donc, par exemple, pour le cas du président Félix Tshisekedi, il est entouré de beaucoup de conseillers, y compris son propre directeur de cabinet, qui sont issus de son église, de l'église pentecôtiste qui s'appelle Philadelphie. Et donc, c'est cette église, évidemment, dont le pasteur, il s'appelle le pasteur Dallo, je parle sous le contrôle de Trésor qui est à Kinshasa. Donc, cette église joue un rôle politique important. Et le pasteur de l'Église, il est aussi le père spirituel du président. Donc c'est le premier conseiller. Et quand on sait la lutte d'influence entre, d'une part, l'Église catholique et l'Église protestante, qu'on appelle couramment les grandes églises, du fait que c'est quand même les deux réunis, c'est à peu près 60% de la population congolaise, et les autres petites confessions religieuses, petites entre guillemets, et donc les pentecôtistes, tout ce qu'on appelle l'église de réveil, les musulmans, les kibangustes, ça forme un bloc à part, et les deux sont en compétition régulière pour le pouvoir, notamment. On a vu régulièrement que lorsqu'arrive la période de désignation du président de la puissance Commission électorale nationale indépendante, la CENI, bon, eh bien, il y a toujours de chamailleries Et puis, à la fin, les petites églises parviennent à se mettre ensemble contre les deux grandes églises. Et comme chaque église compte pour une voix, on se retrouve avec une majorité de ces églises qui font passer leur propre président de la CENI. Donc, on ne peut pas mettre de côté cette compétition entre églises et l'influence que cela peut avoir sur l'attitude du président de la République face à l'Église catholique. Et je vais terminer en disant que, justement, pour essayer de contrebalancer l'initiative du pacte social de l'SEC et de la CENCO, ces autres petites églises se sont également mobilisées pour faire une sorte de contre-initiative qui serait évidemment favorable au pouvoir, contrebalançant l'influence massive de ces deux églises protestantes et catholiques.
Je voulais juste préciser que ce dont vous parliez sur la lutte pour la nomination du président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, eh bien, en République démocratique du Congo, les confessions religieuses jouissent du pouvoir de participer au vote pour l'élection de ce président. Voilà, pour bien comprendre cet enjeu de compétition spécifique à la RDC. Par rapport à ce que vous disiez, Onesphore Sematumba, et ce contexte de compétition qui existe entre églises, est-ce qu'il faut en déduire que l'action de l'Église catholique n'est pas totalement neutre politiquement? Autrement dit, quand les évêques disent « nous agissons au nom du bien commun, au nom du souci de nos fidèles et de nos concitoyens », c'est peut-être pas totalement exact, ou en tout cas ça ne recouvre pas toute la réalité. Il y a aussi une dimension politique plus politicienne, Trésor Kibangula.
Oui, je pense que l'Église catholique et même l'Église protestante aujourd'hui ont un rôle politique. Lors du dernier processus électoral, on a vu ces confessions religieuses se battre pour que les députés nationaux puissent inscrire dans la loi, parce que pour l'instant, ce que vous disiez, c'est pouvoir de désigner les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, c'est un consensus tacite. On sait dans la classe politique, parmi les parties prenantes au processus électoral, que lorsque arrive le moment de désigner le président de la CENI par la société civile, ce sont les confessions religieuses qui ont cette responsabilité. Mais cette fois-ci, comme il y avait déjà beaucoup de tensions entre l'Église catholique et les pouvoirs, l'Église catholique a milité pour que les députés puissent mentionner dans la loi électorale que ces choix étaient réservés aux confessions religieuses. Et ces bouts de phrases-là a été ajouté. Donc, ils ont quand même aussi un rôle politique, au-delà de veiller au bien commun, mais ils sont quand même très politisés, parce qu'il faut savoir que les évêques ici en RDC sont regroupés dans ce qu'on appelle la CENCO, la Conférence épiscopale de nationale du Congo, et dans cette structure, il y a des voix discordantes. Par exemple, les évêques qui sont au centre du pays, fief du président Tshisekedi dans l'espace Kasaï, ne voient toujours pas les choses dans la même direction que ceux qui sont, par exemple, dans les fiefs de l'opposition dans les Katanga. On sait combien les évêques du Kasaï sont proches du pouvoir, alors que l'actuel archevêque du Katanga est considéré comme proche de l'opposition. Donc, il faut quand même tenir compte aussi de cette donne lorsqu'on essaie d'évaluer le rôle politique ou les rôles de l'Église catholique dans l'espace politique.
Nous luttons pour le bien commun. Ce n'est pas par le plaisir de prendre la parole sur la place publique. Nous sommes témoins, effectivement, d'une souffrance atroce. Et nous pensons, effectivement, que notre population ne mérite pas cette souffrance-là. Alors, généralement, nous faisons des propositions. Et au lieu d'appeler ça politique, moi, je dirais que c'est l'éthique de la politique que nous faisons. Et nous sommes très écoutés par la population. Mmh. Et ça, ça fait que ça n'arrange pas toujours les personnes qui sont en responsabilité.
Fulgence Moutéba, le président de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et qui est aussi archevêque de Lubumbashi, qui s'exprimait sur la chaîne KTO le 26 décembre 2024. Onesphore Sematumba, comment interprétez-vous cette éthique de la politique que défend Fulgence Moutéba dans un État, la République démocratique du Congo, qui est un État laïque, il faut le rappeler?
Ah oui, bon, il faut d'abord définir comment fonctionne la démocratie dans la République démocratique du Congo. Parce que ça, c'est important de savoir que dans ce pays, il n'y a plus d'opposition dès que les élections sont terminées. C'est-à-dire, le pouvoir prend toute la place, l'opposition est figurante et donc elle reste inaudible jusqu'aux élections suivantes. Il n'y a pas de presse libre dans ce pays-là. Il n'y a pas de justice indépendante. Le président Tshisekedi lui-même l'a plusieurs fois reconnu en disant que la justice est malade. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Et donc l'Église est un contre-pouvoir, pardon.
Oui, oui, oui. Donc, l'Église se retrouve être la seule institution capable d'avoir l'énergie de porter ce fardeau de contre-pouvoir. Et en le faisant, évidemment, elle est étiquetée de l'opposition. Mais elle se défend, comme dit l'archevêque de Lubumbashi. On ne fait pas de politique, on essaie d'apporter de l'éthique dans la politique. Ce n'est pas différent de ce que disait son collègue de Kinshasa. Être du côté du peuple, c'est-à-dire être du côté du peuple contre le pouvoir qui est censé ne pas être du côté du peuple. Et ça, c'est l'expression d'une méfiance structurelle entre le pouvoir et l'Église catholique. Et cela date d'avant Tshisekedi. 1972, le cardinal Malula de Kinshasa, à l'époque, il est expulsé, contraint à l'exil par Mobutu. Il ira passer des mois à Rome. Parce qu'il était... Il osait tenir un discours critique contre la gouvernance de Mobutu. En 1992, ce sont les catholiques qui se mobilisent pour que se tienne la conférence nationale souveraine dans toute liberté. Et pour en arriver tout de suite là, en 2017, c'est encore une fois l'Église catholique qui s'est opposée à la tentative de Joseph Kabila pour un troisième mandat pour l'alternance. Et ça, c'est une lutte que l'Église catholique menait aux côtés de l'UDPS de Tshisekedi, qui était un parti d'opposition. Donc maintenant, lorsque la même Église continue à se placer, évidemment, du côté de la population contre Tshisekedi et l'UDPS qui sont au pouvoir, ça devient une église traîtresse, etc., etc. Mais donc, voilà, cette opposition, entre guillemets, qui est plutôt ce que l'archevêque de Lubumbashi appelle éthique politique ou éthique dans la politique, c'est quelque chose de structurel. Et je pense que comme disent les évêques, ils sont en train d'essayer d'exercer leur mission prophétique, mais Trésor a raison de dire que ça ne manque pas d'arrière-pensée politique, parce que la CENCO a toujours eu une certaine préférence pour un certain nombre d'acteurs politiques qui, par exemple, aujourd'hui, sont dans l'opposition.
Oui. Et ce à quoi il faut aussi ajouter le rôle très important de l'Église catholique dans les domaines de la santé et de l'éducation. Mais nous n'avons plus le temps de développer. Vous écoutez bien Culture Monde, c'est le 4e épisode de notre série sur les catholiques dans le doute, consacré au rôle politique de l'épiscopat congolais, tant sur le conflit du Kivu que sur le respect des élections. Dans un instant, après la musique, focus sur la Côte d'Ivoire, où l'approche de la présidentielle inquiète aussi les évêques.
Wakati na kuona najipa moyo sana, pia nasema asante kwa Mungu aliyekumba kila nyumba. Bila wewe ni kama jangwa. Nimejaribu kutembea kidogo, nimeona kuume na kushoto. Umeangalia miji zetu kwa uzuri na urembo wako. Nimejaribu kusafiri karibu na mbali. Nimejaribu kusafiri karibu na mbali. Umependeza miji za ulimwengu kwe, ni amana watu wanakupenda.
Habibi, habibi, tina malawe.
Tabasamu kila wakati unaposema, unapoimba, unapocheka. Habibi, kupitia wewe Mungu amejaza dunia na raha na kili. Yote haya yananituma kuimba jina lako mzuri.
Habibi, habibi, tina malaweza.
Le chanteur congolais originaire de Goma, Inosbi, de son vrai nom, Innocent Didas Baloumé. Vous écoutez Culture Monde, on évoque ce matin le rôle politique du clergé catholique en Afrique, qui focus maintenant sur la Côte d'Ivoire, où les évêques ont lancé un appel en mars à des élections apaisées.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisé.
Extrait de l'appel lancé le 24 mars dernier par Marcelin Yao Kouadio, évêque de Daloa en Côte d'Ivoire et président de la conférence des évêques, la CECCI, qui s'inquiète de la tension politique qui pourrait saisir le pays à l'approche de la présidentielle prévue en octobre. L'absence de plusieurs figures de l'opposition sur la liste électorale publiée en mars est dénoncée et l'Église catholique, bien que minoritaire, entend jouer un rôle de vigie sur ce scrutin. Bonjour Marie Miranguyan.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'EHESS, membre de l'Institut des mondes africains, spécialiste du fait religieux en Côte d'Ivoire et dans les pays du Golfe de Guinée, autrice de « Guerre mystique en Côte d'Ivoire, religion, patriotisme, violence 2002-2013 » paru aux éditions Cartala. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Cet appel des évêques en Côte d'Ivoire qui sonne comme un avertissement, peut-être même déjà comme une condamnation de la mauvaise gestion des élections. Est-ce qu'il est inédit en Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que les évêques ont coutume de ce type de déclaration ?
Alors, ce n'est pas du tout la première sortie des évêques. Ils interviennent à minima deux fois par an sur donc, les sujets qui ont trait à la vie sociale et politique du pays. Ces appels ou ces lettres pastorales ont davantage peut-être de relais dans la presse et dans les médias sociaux que cette année, il s'agit d'une année électorale. donc avec les élections qui sont prévues le 25 octobre, des élections présidentielles et qui donc font renaître la peur des violences des dernières présidentielles, puisque pour mémoire, en 2020, il y avait eu 85 morts, plus de 500 blessés. Et 10 ans auparavant, lors de la crise post-électorale de 2010-2011, il y avait eu plus de 3000 morts. Donc aujourd'hui, la crainte est là d'un risque de nouveau de dérapage vers ce genre de violence.
Quand les évêques, et donc Marcelin Yaoku Adio, appellent à des élections inclusives, ils visent donc cette problématique d'une liste électorale sur laquelle ne figure pas une partie des candidats d'opposition, notamment Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus par le pouvoir, par le gouvernement d'Alassane Ouattara?
Alors, les autorités gouvernementales, respectueusement, ont pris acte de l'appel de la conférence des évêques, mais ils n'ont pas réagi officiellement, sans plus de commentaires. Par contre, dans l'opinion publique, cet appel a donné lieu à de vigoureux débats, relayés par les médias sociaux, et là, les réactions étaient assez clivées. C'est le reflet d'ailleurs des clivages internes de la société ivoirienne. D'un côté, il y a ceux qui pensent que les évêques sont tout à fait dans leur rôle, que c'est même très vertueux de vouloir prévenir des risques de dérapage. Ceux-là sont plutôt vus comme des partisans de l'opposition. Et puis, de l'autre côté, du côté des partisans du régime en place, il y a au contraire des soupçons comme quoi les évêques seraient prêts à défroquer pour entrer en politique, qu'ils outrepassent leurs fonctions, qu'ils sont trop politisé en fait. Il est possible qu'il y ait un soupçon d'affinité élective entre l'Église de Rome et Laurent Gbagbo, puisque lors de son retour en Côte d'Ivoire il y a 4 ans, il avait réintégré donc l'Église catholique au moment aussi de sa répudiation un peu tonitruante de son ex-épouse Simone Eyiveg Gbagbo, qui elle est connue comme une très fervente pentecôtiste.
Oui, donc Laurent Gbagbo était retourné vers la foi catholique en 2021. Cela avait fait la une de la presse en Côte d'Ivoire. Ce soupçon de proximité avec un candidat, que ce soit par sa foi ou autre, est-ce qu'il est avéré?
Pas forcément. C'est de bonne guerre. De même, Charles Blé Goudé est revenu vers le catholicisme. Guillaume Gbagbo est catholique, ce qui ne veut pas forcément dire que l'Église catholique ici fait acte sectaire. Elle parle au nom du bien commun qu'est la paix sociale en Côte d'Ivoire, et pas exclusivement en fait au nom de sa communauté catholique. Hein.
Et justement, quelle est la popularité de l'Église catholique, donc qui les catholiques représentent, je crois, 17% de la population en Côte d'Ivoire. Au-delà de ses fidèles, quel est son poids, quelle est son influence morale également quand les évêques prennent position comme ça publiquement dans la...
C'est une voix qui compte, c'est une voix écoutée, c'est une voix respectée, notamment par les gouvernants. C'est une institution qui a une tradition, donc un peu dans la lignée de la doctrine sociale de l'Église, donc de veille de ce qui se passe à l'échelle nationale pour servir un peu de sentinelle. Donc les autorités, il y a une certaine déférence à l'endroit donc des interventions de la conférence épiscopale. Et pour preuve, pas plus tard qu'hier, la commission électorale indépendante, alors c'était peut-être moins en réaction à l'appel des évêques du 24 mars dont on a parlé, mais plutôt à la décision, à l'annonce en tout cas de la décision de sortie de la commission électorale et même de boycott pour l'un des deux partis, donc le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, et le PDCI, qui est dirigé aujourd'hui par Tidjane Thiam, ont annoncé ces jours passés qu'elle sortait de la commission électorale, ce qui compromet d'autant plus la possible impartialité de cette institution et puis qui met à mal le processus électoral. Donc la CEI a invité les représentants de l'ensemble des confessions religieuses pour une réunion de concertation et d'échange, donc qui a eu lieu hier, le 16 avril. Et à la sortie, l'abbé Norbert Abécan, qui est le responsable de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, a eu des mots très très positifs en soulignant, enfin en disant qu'il avait appris énormément de choses lors de cet échange sur l'histoire, la constitution, les contraintes de cette commission électorale. Et il a souligné l'importance du partage de ces informations et d'un cadre de concertation et de dialogue, ce qui semble aller un petit peu en contresens par rapport à la décision de boycott des partis d'opposition qui jouent plutôt le bras de fer.
Et ce qui tranche avec la tonalité du discours de l'évêque Marcelin Yao Kouadio qu'on a entendu en début d'entretien et qui est un homme qui est connu pour son franc-parler. Est-ce que tous les évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont toujours au diapason dans leur prise de parole publique et pour parler du cas de Marcelin Yao Kouadio, en quoi il peut-être aussi être tenté de parler en son nom parfois?
Alors, il faut savoir que les évêques parlent de manière officielle et collective. Ce sont en général les appels et lettres pastorales de la conférence des évêques, mais les évêques peuvent aussi parler en leur âme et conscience, donc en leur nom propre. Et là, on a pu entendre effectivement du côté de l'évêque de Daloa, qui est aussi donc le président de la CECI, mais là, il parlait en son nom propre. Il a eu des sorties plus polémiques. Au moment justement de sa nomination, il y a 2 ans de cela, en juin 2023, à Agboville, il avait eu un discours assez un peu contestataire, où il avait parlé de corruption généralisée, de tribalisme rampant, de justice sélective. Il avait même dit qu'on était dans un état de démocratie armée. Et là, ça avait provoqué des réactions officielles du gouvernement, du porte-parole du gouvernement. Ouais. Qui, dans une tonalité ironique, peut-être convient dans des mondes différents.
Pardon, je suis désolée de vous couper. Merci infiniment pour cet éclairage sur la Côte d'Ivoire. Marie Mirand-Guyon, je renvoie vers votre livre « Guerre mystique en Côte d'Ivoire ». Merci infiniment à nos deux intervenants de la première partie, Trésor Kibangula et Onesforce Matumba. On mettra les références vers vos laboratoires de recherche respectifs sur le site de Culture Monde. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture. La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
C'est un État en quête de souveraineté dans l'extractivisme, pour reprendre le titre de notre série d'émissions du mois dernier. Le Ghana, premier producteur d'or en Afrique, va interdire à tous les étrangers de commercer sur son marché local de l'or.
Les étrangers ont jusqu'à la fin du mois pour quitter le marché d'échange d'or du Ghana, annonce le journal local Daily Graphic ainsi que le South China Morning Post. L'objectif est de lutter contre l'exploitation minière illégale qui entraîne des pertes de revenus pour l'État et d'immenses destructions pour l'environnement, notamment sous l'impulsion d'exploitants chinois, souligne la BBC. Un organisme public, le Ghana Gold Board, a désormais le pouvoir exclusif, ajoute la chaîne télévisée TVC News, de réglementer et de contrôler l'exploitation artisanale de l'or qui fait vivre 1 million de personnes au moins dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 30 millions d'habitants. Lutter contre l'orpaillage illégal était une promesse de campagne de John Mahama, rappelle la BBC, et désormais le président ghanéen doit agir au plus vite, intime un éditorialiste du quotidien ghanéen The Chronicle, pour en finir donc avec les ravages humains et environnementaux causés par cette exploitation minière illégale appelée Galamsey au Ghana, indique la Deutsche Welle. Galamsey, dérivé de l'expression anglaise gather them and sell, prenez-les et vendez. Ces ravages se voient aujourd'hui encore, photos à l'appui, dans une réserve forestière de la région d'Ashanti, la principale région de production de cacao du Ghana, comme le montre la radio Joy FM sur son site. Des pelleteuses jaunes déchirent le vert des forêts ghanéennes. 19 engins d'ailleurs viennent d'être saisis par l'armée. Des cabanes en bois et en tôle où dorment les mineurs illégaux ont également été détruites et brûlées, rapporte Joy FM. Elles avaient été montées à la hâte près de nouvelles pistes forestières ocre qui saignent les réserves biologiques et détruisent aussi les plantations de cacao. Déforestation et pollution des eaux au mercure, au cyanure, de plus en plus utilisées pour extraire de l'or, au point que l'association WaterAid qualifie cela d'écocide, alerte la BBC. C'est un empoisonnement à petit feu que dénonce aussi le journal ghanéen The Chronicle, mais aussi le chanteur Stoneboy dans son titre Greedy Men, les hommes cupides.
no gloves. Contaminated, got to run into the hose.
Les femmes et les enfants sont ceux qui souffrent le plus de la manipulation de produits chimiques toxiques sans gants. Les eaux contaminées entrent dans nos maisons. C'est ce que nous buvons, c'est avec cela qu'on lave nos vêtements. Pourquoi donnons-nous notre permission à la Chine d'exploiter notre or ? Le prix que nous payons n'en vaut pas la peine. Beaucoup vont mourir à cause d'hommes cupides, chante le Ghanéen Stone Boy. Une catastrophe environnementale qui s'illustre donc en musique, mais aussi en peinture. L'eau du fleuve Prat est si épaisse, jaunâtre ou brune, note la BBC, qu'un artiste a pu utiliser cette eau comme peinture pour représenter justement la dévastation environnementale causée par l'orpaillage illégal.
Et si le Ghana veut reprendre la main sur l'extraction d'or, c'est aussi pour renflouer ses caisses.
Le prix de l'or est monté jusqu'à 3 200 $ l'once la semaine dernière, car dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'or reste une valeur refuge pour les investisseurs, indique la BBC. Et l'orpaillage illégal est justement alimenté par la hausse des prix de l'or, mais aussi par le chômage des jeunes Ghanéens. Il s'agit donc pour le pouvoir de lutter contre un cercle vicieux que décrit la Deutsche Welle. Les rivières polluées par l'orpaillage au Ghana pèsent sur les moyens de subsistance, sur l'agriculture, la santé, avec même des malformations fœtales, ce qui aggrave la pauvreté, notamment dans les communautés rurales, et cela peut conduire ensuite à travailler dans l'orpaillage illégal. Cela peut rapporter jusqu'à 2000 cédis par semaine, l'équivalent de 110 euros, soit le salaire mensuel d'un enseignant au Ghana, indique la BBC.
Women make up half of Africa's artisanal miners and children another 10%.
La moitié des mineurs artisanaux en Afrique sont des femmes, et l'on compte 10% d'enfants. Au sommet de la chaîne se trouvent de grands groupes, mais aussi le crime organisé, des groupes armés. Un problème que l'on retrouve dans d'autres pays, souligne la Deutsche Welle, en RDC ou en Afrique du Sud. Mais aussi en Amérique latine, comme au Salvador, nous en avons déjà parlé dans cette chronique. Alors personne ne mange de l'or, mais un or responsable peut faciliter l'alimentation d'aujourd'hui et des générations futures, conclut un journaliste ghanéen de la radio Joy FM. Pour y parvenir, nous devons optimiser la chaîne de valeur, optimiser les recettes qui en découlent et les utiliser de manière judicieuse et durable, estime la radio ghanéenne, et ce, pour faire progresser toute la société.
Et pour finir, Catherine, des astronomes annoncent avoir détecté les indices les plus prometteurs à ce jour d'une vie potentielle.
En dehors de notre système solaire, sur une exoplanète massive connue sous le nom de K2-18b, elle est située à 124 années-lumière de la Terre, précise le Washington Post. Elle est 2,5 fois plus grande que notre planète. Alors cette équipe de chercheurs américano-britanniques a donc détecté, grâce au télescope spatial James Webb, des signes de composés chimiques longtemps considérés comme des biosignatures d'une possible vie extraterrestre. Une molécule d'ailleurs produite sur Terre par la décomposition du phytoplancton et d'autres microbes, indique la BBC. Mais prudence, souligne le Washington Post, davantage de données sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On se retrouve demain dans Culture Monde pour un retour de terrain en Iran et puis une table ronde consacrée à la situation au Soudan au bord de la partition.